Je vais passer la parole à Willy Barral et Daniel Olivier qui ont organisé cette table ronde sur la maison verte, les lieux d'accueil, etc. Hein, voilà. Daniel.
Alors il paraît qu'il faut parler très près du micro pour que tout le monde entende. Bien. C'est donc une table ronde qui a pour thématique la question de la Maison Verte, ce lieu d'accueil parents, enfants, tout petits, y compris nourrissons, qu'a conçu Françoise avec certains autres de ses amis lorsqu'en 79 elle s'est ouverte à Paris. Afin de vous entretenir un peu, à notre tour, de cette fameuse expression que vous avez entendue dans la journée, l'éthique de la rencontre. Et nous avons le privilège d'accueillir à cette table ronde aussi des personnalités qui viennent de l'étranger, ayant créé, impulsé ce type de lieu d'accueil, dont nous vous parlerons tout à l'heure. Dès à présent, en tout cas, je passe la parole à notre ami Daniel Olivier, qui est psychanalyste et qui a créé aussi une structure d'accueil à Caen. Voilà.
Je vous remercie. Avant de démarrer mon propos par une longue citation, moyennement longue citation de Françoise Dolto, je voulais en préalable rendre hommage évidemment à Françoise Dolto et aussi à l'équipe de la Maison Verte. Ça me paraît très important de le pointer parce que si c'est une chose tout à fait importante que d'avoir créé cette affaire, je crois que c'est aussi une chose tout à fait importante et tout à fait déterminante que d'avoir duré. En quelque sorte, il y en va de ce qu'on crée, mais il y a aussi un engagement éthique à s'installer dans la durée et dans la pugnacité. Et je crois que ça, c'est une chose très très importante qui s'arrime à une autre question qu'on doit à l'équipe de la Maison Verte et qui me paraît tout à fait important de souligner ici, c'est sur la question de la transmission. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'être à cette table aujourd'hui, à savoir que la Maison Verte, l'équipe de la Maison Verte, pour les connaître pour beaucoup d'entre eux, ne s'est jamais positionnée dans l'esprit de Françoise Dolto, notamment, justement, en position de maîtrise, en position de savoir, et a toujours renvoyé les gens qu'elle a rencontrés à la promotion et de la singularité de leur désir, de leur création, et non pas en position de savoir-faire qu'ils auraient imposé aux uns et aux autres. C'est ce qui a permis donc l'organisation de cette table ronde, puisque Madame Vatel nous en dira un petit mot. Cette création a donné lieu à des dizaines et des dizaines de créations en France et aussi à l'étranger. Ça me paraissait important de le pointer. Alors, de la Maison Verte au lieu d'accueil, enfants-parents, la transmission de la psychanalyse. Françoise Dolto, la difficulté de vivre. Si le rôle du psychanalyste est de permettre à un sujet névrosé ou malade mental de trouver son sens, son rôle est aussi de pousser un cri d'alarme devant la carence publique éducationnelle, les méthodes et les institutions scolaires souvent pathologiques, face aux carences et aux rôles pathogènes individuels de bien des parents du monde civilisé. Un immense travail de prophylaxie mentale doit s'organiser et ce n'est pas là le rôle des psychanalystes praticiens, mais ce travail ne peut s'organiser sans l'éclairage nouveau qu'apporte la psychanalyse. Dès la fin des années 70, Françoise Dolto, l'équipe de la Maison Verte, puis très vite quelques autres à Paris et en province, ont recherché un mode d'approche, un cadre nouveau dans le champ social, au plus près de la réalité quotidienne de la vie des parents avec leurs enfants. Leur réflexion portait sur les interrogations et les angoisses parentales et sur la nécessité d'intervenir précocement dans la vie de l'enfant. Cette réflexion se soutient des apports conceptuels de la psychanalyse à propos de la vie psychique et à propos de l'origine des troubles psychiques et comportementaux de l'adulte ou de l'adolescent qui s'inaugurent dans la vie familiale. Ces lieux se sont inscrits dans le champ de la prévention. Ce courant novateur, issu donc des recherches des psychanalystes, a donné naissance à un cadre d'accueil spécifique d'enfants avec leurs parents, d'enfants accompagnés de leur adulte tutélaire, dans la garantie de l'anonymat, des échanges loin de toute idée de guidance et de rééducation. C'est ainsi, au regard de la théorie analytique, dans sa prise en compte radicale de l'inconscient, que s'est pensé le cadre qui organise un accueil de l'enfant accompagné d'un adulte tutélaire. De ce fait, les différents points qui structurent un lieu d'accueil, que vous êtes nombreux à connaître, l'anonymat, l'inscription du prénom de l'enfant, les règles du lieu, la participation financière, l'accueil à plusieurs, la supervision, se soutiennent de cette place théorique qui élabore les enjeux liés aux aspects transgénérationnels, la filiation, la sexualité infantile, la pulsion. Pour plus de précision, nous pourrions dégager quelques pistes qui rendent compte de la nature du travail d'accueil dans un lieu référencé à la psychanalyse. J'ai choisi l'axe de ce que j'ai nommé le maniement du symptôme par l'accueillant. Autrement dit, le symptôme comme voie d'accès à la vie psychique. Alors comment on s'y prend ? Ou comment on essaie de s'y prendre ? Le symptôme est révélateur d'une dimension de vérité du sujet. Il essaie de faire entendre la vérité de son désir. Par un symptôme, l'infance dévoile le mal-être de l'adulte de référence ou des dysfonctionnements familiaux. Tenter de le réduire, c'est prendre le risque de perdre le fil d'une problématique qui vient se dire très certainement dans une demande d'aide et d'accompagnement. Il n'y a pas lieu de faire taire un symptôme, mais d'en délivrer la parole pour que le conflit psychique dont il est l'expression se dénoue. En quelque sorte, l'accueillant participe à un dispositif de prévention où l'organisation de conditions de sécurité, de respect, d'écoute et de compréhension permet à l'enfant de faire entendre à ceux qui en sont les premiers destinataires, ses parents, un message jusqu'alors inaudible. Voilà à quoi faire un accueillant avec, je dirais, sa présence. De l'accueillant, je dirais que c'est plutôt une question de savoir-être que de savoir-faire. Je crois qu'il est nécessaire d'insister sur cet aspect qui fait tenir le dispositif, la présence de l'accueillant. Bien plus que l'effet d'une parole, même instruite, ou d'une écoute aussi patiente, pertinente et compréhensive soit-elle, une qualité de présence est requise pour que cela tienne. Dès l'entrée d'un enfant accompagné, l'inhabituel de la situation se joue. Il faut mesurer à quel point venir avec son enfant, ou l'enfant dont on s'occupe, se présenter à d'autres adultes qui vous reçoivent, est inédit dans la culture. Lors des après-midi d'accueil, les adultes ne peuvent circonscrire leur venue autour d'une question, même si leur inquiétude tente d'y renvoyer. C'est avec un grand naturel, le plus souvent, que l'ensemble du rapport à l'enfant se déploie. C'est l'enfant lui-même, dans toute sa personnalité, qui se montre. C'est un grand crédit fait à nos lieux d'accueil que d'y venir en révélant de fait sa façon d'être avec son enfant. En retour, il nous incombe, à nous accueillants, une tâche complexe. Plus le mode d'accès est simple, plus sont requises de ceux qui reçoivent une présence assurée et une délicatesse d'approche. C'est en ce sens que l'on peut dire qu'une éthique est inscrite dans le rôle d'accueillant. C'est à ces conditions de liberté offertes aux personnes qui viennent que nous pouvons attribuer les effets d'ouverture qu'ils en éprouvent. L'ouverture psychique, pourrait-on dire. Au contraire de promouvoir un modèle de famille moderne ou bien de famille à l'ancienne, nous laissons venir les représentations conscientes que chacune des personnes se fait de ce qu'est le rôle, celui de l'autre. Au-delà de ces représentations conscientes, arrive alors le fragment de l'histoire de chacun, plus ou moins secret, que le passé vécu des femmes et des hommes qui deviennent mères et pères travaillent en silence leur construction d'un idéal de vie. S'il nous arrive, presque chaque semaine, de voir disparaître des symptômes en train de s'installer, nous n'y centrons nullement l'attention. La levée d'un symptôme serait une trop belle occasion d'interrompre le processus en cours. Je crois que Lacan parlait de fuite dans la guérison. Le travail d'accueil a valeur de prévention, certes, parce que ce qui pourrait s'installer durablement et devenir un trouble majeur d'un enfant disparaît avec le flot d'angoisse de sa mère ou de son père. Mais nous faisons l'hypothèse que nous sommes d'autant plus préventifs de ce que les symptômes n'apparaissent même pas. Nous voyons ainsi que loin de proposer des modèles, notre travail permet que s'assouplisse la contrainte des idéaux. Si nous voulons que se décrispe ce qui risque de faire symptôme et de se calcifier en un trouble profond de l'enfant, il nous faut, me semble-t-il, lever la chape des contraintes des modèles qui culpabilisent. Nous tentons de ne pas confondre un idéal que l'on s'impose inconsciemment et une éthique qui se fonde sur la liberté qu'un sujet gagne sur sa culpabilité morbide. De l'allègement de la culpabilité d'un père ou d'une mère dépend, comme j'ai essayé de le montrer, beaucoup d'apaisement chez l'enfant. À la différence des structures de garde ou d'éducation, le style de l'IRAEG, de la Maison Verte et de quelques autres, est de se vouloir réceptif au travail de l'inconscient. Un enfant n'est pas déviant parce qu'il est violent, ne parle pas, ne marche pas, mort ou est indissociable de sa mère. Peut-être, dans notre dispositif, le très jeune âge de ces enfants facilite cette réceptivité compréhensive. Notre différence est donc que nous supposons, dans les situations qu'on nous amène, le travail de l'inconscient. Si un trouble d'une fonction vitale a des déterminations inconscientes, nous ne nous acharnons pas sur lui, nous laissons au sujet enfant ou adulte qui en est atteint la liberté de déplier ce qui l'occupe et le perturbe. Il s'avère que prendre en compte l'efficacité de l'inconscient en laissant venir les surprenants détours qu'il prend dans la vie permet de défaire certaines retombées morbides qui, nous l'avons vu, précipiteraient en symptômes. Être à l'écoute de l'archaïque, l'inconscient, ce n'est pas s'inscrire dans la norme qui défiait la déviance, mais plutôt accueillir, au sens le plus fort du terme, le pulsionnel qui, dans les premiers instants de la vie, vise à rencontrer une réponse structurante qui participe à sublimer et ainsi humaniser le sujet qui en est traversé. Ainsi pourrions-nous avancer que la recherche, à travers le formatage d'un accès à la norme, serait constitutive d'un joli symptôme. Les lieux d'accueil qui s'inscrivent dans ces modalités de travail subissent de mon point de vue, les mêmes attaques que la psychanalyse. Ils deviennent de ce fait des lieux de résistance symbolique à la tentative de non-prise en compte de la souffrance psychique comme médiateur d'une subjectivité naissante. On sait que la création et le maintien institutionnel de tels lieux se font dans une recherche permanente. Il s'agit donc de rendre possible un espace de liberté pour enfants et adultes, hors de tout commentaire ou jugement, qui permette que puisse s'exprimer l'indicible du désir du parent pour l'enfant. L'enseignement de la psychanalyse nous dit que le lien à l'enfant est tissé de l'histoire infantile du parent. C'est à cette condition d'absence de finalité éducative et adaptative que le désir d'un parent accueilli trouve dans le lieu d'accueil les conditions pour s'exprimer. S'exprimer et évoluer de façon que l'enfant se sente délesté du poids d'attention parentale qui l'entrave soit dans l'inhibition, soit dans une expression pulsionnelle violente. En participant ainsi à la promotion de l'autonomie psychique d'un enfant, nous valorisons ses compétences à la distanciation d'avec ses parents et de surcroît, favorisons sa rencontre avec le collectif. Comme disait Françoise Dolto, d'avoir la société à la bonne. 30 ans après, nous tentons d'évaluer le maintien du vif de cette invention en interrogeant les éléments qui déterminent une création massive de nouveaux lieux d'accueil sans que l'on sache véritablement ce qui les rassemble ou les distingue éthiquement. Il est d'ailleurs remarquable, sur cette question de l'évaluation, de noter que dès la fin des années 70, qui a donc vu la naissance de la Maison Verte, l'IRAEC et bien d'autres, n'a pas été évité, en quelque sorte, cette question de l'évaluation. En effet, ces créations ont été le résultat d'une évaluation de la clinique auprès des enfants et des familles à l'aune des dispositifs existants. Ces projets ont en quelque sorte été pensés à partir d'une première évaluation de la prise en charge d'un certain nombre de dysfonctionnements dans l'accompagnement de la souffrance psychique des enfants et de leurs familles. Cette évaluation est permanente dans nos rapports d'activité où nous essayons de rendre compte régulièrement de notre travail. Cette évaluation s'exprime également par les professionnels de la petite enfance qui nous adressent des personnes, ainsi par le fait que depuis quelques dizaines d'années, des enfants et des parents viennent et reviennent dans nos lieux. J'ai presque fini. L'accueil permet aussi, eu égard à la promotion de l'autonomie psychique d'un sujet engagé, d'entamer ce que l'on nomme le temps de la socialisation. Socialisation au sens du lien qui s'installe dans la rencontre d'un sujet envers un autre sujet, et non pas une socialisation sous-tendue par une visée adaptative et éducative de l'individu au profit d'une société normalisée. En quelque sorte, nous pourrions dire partiellement que la socialisation est au lieu d'accueil ce qu'est la guérison dans la cure analytique, de surcroît. Les lieux d'accueil référencés à la psychanalyse organisent le plus souvent leur création et leur pérennité sur le désir d'une équipe motivée et initiatrice du projet. D'autres, ces derniers temps, sont issus du besoin, voire de l'injonction, d'une institution ou d'une administration. Ainsi, sous l'appellation générique de lieu d'accueil, s'expriment des dispositifs très différents. Identifiés, ces différences pourraient participer à promouvoir des complémentarités et non pas exacerber des confusions où l'un se prend pour l'autre. Si le cadre tel que je l'ai sommairement évoqué est adopté par le plus grand nombre, nous devons interroger s'il est soutenu théoriquement avec la même homogénéité. À l'IRAEC, depuis 30 ans, nous sommes soucieux et intéressés par la rencontre d'autres dispositifs sans pour autant participer à une certaine confusion, voire rivalité. Il en va de notre responsabilité éthique d'accueillant ainsi que du respect dû aux personnes accueillies. Aussi, pour conclure, nous pourrions nous interroger de la façon suivante. Certainement, de plus en plus de lieux d'accueil, peut-être le risque de moins en moins de psychanalyse. Je vous remercie.
Merci donc à Daniel Olivier de nous avoir ainsi si bien positionner l'éthique de la rencontre dans ce lieu très particulier qui s'appelle une maison verte. Je vais maintenant donner la parole à Elisabeth Vatel, qui est responsable à la Fondation de France de secteur petite enfance et qui va vous parler elle-même de ce travail.
Alors pourquoi la présence aujourd'hui de la Fondation de France ? Eh bien tout d'abord parce que nous avons apporté notre soutien à l'organisation de ces journées et tout simplement aussi parce qu'il y a 30 ans, en 1979, alors que la Fondation de France n'était encore qu'enfant, puisque nous avions 10 ans à l'époque, elle a rencontré Françoise Dolto à travers le projet de la Maison Verte, ce lieu d'accueil original et inédit à l'époque. En préalable, quand même, quelques mots sur les missions de la Fondation de France. Elle aide des projets qui répondent aux besoins sans cesse en évolution de la société. Elle agit dans tous les domaines de l'intérêt général, solidarité, enfance, santé, recherche médicale, culture, environnement. Et elle abrite également 680 fondations créées par des mécènes. Elle est indépendante, privée. La Fondation de France ne reçoit aucune subvention publique et peut distribuer ses prix, bourses et subventions grâce à la générosité de ses donateurs au nombre de 650 000. Je retracerai dans un premier temps les grandes lignes de notre action dans les années 80 pour soutenir l'essaimage des lieux d'accueil enfants-parents inspirés de la Maison Verte. Et dans un second temps, je vous présenterai les tendances qui se dégagent d'une étude nationale qui a été menée à l'initiative de l'association Le Furet à Strasbourg sur les lieux d'accueil enfants-parents et dont les résultats seront disponibles sur leur site internet lefuret.org courant janvier. Ce projet donc, de la Maison Verte s'inscrivait dans le champ de nos préoccupations dominantes dans les années 80. Comment faire bénéficier les enfants, les adultes, les parents, les professionnels de toutes ces découvertes, de tous ces savoirs que la recherche avait accumulés sur l'enfant, son développement, ses capacités précoces. Quand Françoise Dolto, Marie-Noëlle Rebois et quelques autres se sont efforcés de nous convaincre, la description la plus concrète de la Maison Verte consistait surtout à nous dire ce qu'elle ne serait pas. Ni une crèche, ni une halte-garderie, ni un centre de dépistage précoce. On a bien vu à quoi ça pouvait servir. Ça pouvait servir à dénouer les malentendus de la petite enfance, à aider l'enfant à se constituer en sujet, en être de langage, à qui on parle directement, à aider l'enfant à préparer la séparation pour aller plus tranquillement à la crèche, à l'école. Un lieu où l'on peut se rendre sans rendez-vous, sans forcément avoir à formuler une demande, où l'on est accueilli pour ce que l'on est, en tant qu'humain à part entière, là, dans l'instant présent. Au quotidien, sans avoir à décliner son identité sociale, par une équipe ouverte, disponible, dans un cadre chaleureux, guidé par quelques règles simples. En 1984, nous créons un vaste programme d'aide à la création de lieux innovants pour la petite enfance. C'est ainsi que nous avons vu apparaître progressivement les demandes d'aide venant des lieux d'accueil enfants-parents inspirés directement de la Maison Verte. Les compagnes et compagnons de route de Françoise Dolto ont créé à travers toute la France un vrai mouvement de fond dans les années 80. Denis Vasse et Marie-Josée Dorazio du Jardin Couvert à Lyon, Claude Schoeder de la Maisonnée à Strasbourg, pour ne citer que les tout premiers que j'ai eu l'occasion de rencontrer, soit au total une trentaine de lieux à qui nous avons accordé notre soutien. Ces initiatives inspirées de la Maison Verte ont en fait véritablement réveillé les professionnels, leur façon de faire en direction des enfants. Qu'est-ce qui était à l'œuvre dans ce mouvement ? La volonté d'un certain nombre venant d'horizons différents de travailler ensemble pour créer autre chose, hors normes, à construire collectivement, en prenant le temps qu'il faudrait, car il y avait à rénover en profondeur la façon d'accueillir l'enfant en l'appréhendant en tant que sujet, être de parole à part entière, à rencontrer dans sa singularité. Le mouvement d'essaimage s'est accentué en 1987. En effet, la moitié des 30 lieux aidés reçus par la Fondation de France, reçurent notre soutien entre 1987 et 1989. Et aujourd'hui, dans l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, on répertorie 44 créations dans les années 80. Face à cette accélération, nous avons souhaité valoriser alors le travail réalisé par la Maison Verte et ses émules en organisant un colloque en avril 89, Maison Verte, 10 ans après, quel avenir ? C'était il y a 20 ans dans cette même salle. Nous étions aussi nombreux qu'aujourd'hui. Nous ne nous attendions pas à une telle audience. Témoignage de l'intérêt que suscitaient ces lieux particulièrement novateurs dans le champ de l'accueil des jeunes enfants. Ils semblaient alors répondre à une attente forte de tous côtés. Cette affluence constituait-elle les prémices du développement à venir de ces lieux ? Oui, en quelque sorte, car la création des lieux d'accueil enfants-parents s'est accélérée de façon exponentielle pour passer de 44 dans les années 80 à 242 dans les années 90 et à 433 dans les années 2000. Et ce d'autant qu'en 1996, la reconnaissance de ces lieux a permis l'instauration d'une prestation de service par la branche CNAF, par la branche famille de la CNAF. Elle venait ainsi clore une première phase de quasiment 20 ans de financement précaire, qui est le lot de toutes les innovations. Quelle réalité aujourd'hui recouvre ces lieux et quelle filiation avec l'esprit de la Maison Verte ? Grâce à une étude quantitative toute récente, en fait menée au cours de cette année 2008 sur les lieux d'accueil enfants-parents par une équipe de chercheurs à l'initiative du FUREE, cofinancée par la CNAF, la Fondation Bernard Van Leer et la Fondation de France, nous pouvons dresser un tableau actualisé assez intéressant pour le sujet de notre table ronde. Un préalable, l'objet de l'étude portait non pas exclusivement sur les lieux de type Maison Verte, mais sur les lieux d'accueil enfants-parents qui reçoivent aujourd'hui la prestation de service CAF au nombre de 850. Cette prestation de service finance une fonction globale d'accueil à hauteur de 30% du coût de fonctionnement du service et sur la base de l'amplitude annuelle d'ouverture. Les textes rappellent qu'en offrant un espace de parole, de rencontre et d'échange, en dehors de toute visée thérapeutique, les lieux d'accueil enfants-parents constituent un outil de prévention primaire par un accompagnement précoce de la fonction parentale. Le bénéfice de la prestation de service est conditionné à la formalisation d'un projet respectant des règles minimales que je vous rappelle, qui sont ceux des textes. L'accueil des enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés d'un parent ou d'un adulte responsable. La participation des adultes reposant sur le volontariat, le respect de l'anonymat et de la confidentialité, l'absence de visée thérapeutique, tant à l'égard des enfants que des familles, la présence à chaque séance d'au moins 2 accueillants, formés à l'écoute et supervisés régulièrement par un professionnel compétent, un service identifié par un gestionnaire, un budget et un local spécifique, et des modalités d'évaluation qui comprennent au moins le nombre et l'âge des enfants accueillis, ainsi que leur lien avec l'adulte accompagnant, la liste des accueillants, leur qualification et leur statut, et la durée et la fréquence des séances. Maintenant, je vais vous donner quelques résultats de l'étude quantitative qui a été réalisée et ses grandes tendances. Alors, les questionnaires ont transité par les caisses d'allocation familiale, ce qui a facilité les remontées et a permis un taux de réponse très important, puisqu'aujourd'hui, sur 850 lieux qui sont financés par la prestation de service, 720 ont répondu, soit plus de 90%. Donc en fait, et il n'y a pas eu d'autres études réalisées, sauf 2 études confidentielles réalisées par la CNAF, mais dont les résultats n'avaient pas été diffusés, l'une en 1998 et l'autre en 2003. Alors, quant à la date d'ouverture des lieux, 44 lieux ont ouvert dans les années 80, 242 dans les années 90 et 433 dans les années 2000 jusqu'à ce jour. 65% des lieux d'accueil enfants-parents qui sont ouverts aujourd'hui ont été créés il y a moins de 10 ans et 37% il y a moins de 5 ans. Les lieux d'accueil enfants-parents apparaissent comme des lieux extrêmement diversifiés à tout point de vue. Les localisations par rapport aux porteurs du projet, par rapport à l'amplitude d'ouverture, les budgets, le profil des accueillants et les références théoriques. Et une étude comparative, en fait, faite sur les années 80, 90 et 2000, nous montre, en fait, les grandes évolutions et ce sont des tendances qui, au fil des années, s'accentuent. Par exemple, en ce qui concerne le porteur de projet, parmi les 44 lieux qui ont ouvert dans les années 80, 84% étaient portés par une association, alors qu'aujourd'hui, les créations qui existent, il n'y en a que 43% qui sont portées par une association. En ce qui concerne l'implantation des lieux, dans les années 80, Elle concernait essentiellement une implantation en milieu urbain pour 84%. Aujourd'hui, ce ne sont plus que 50% qui s'implantent en milieu urbain. Et par contre, il y a une envolée du milieu rural, si je puis dire, puisque dans les années 80, 7% s'implantaient en milieu rural et aujourd'hui, on est à 30%. Sur les quartiers périphériques, on est passé simplement de 9% à 18%. En ce qui concerne la participation financière qui est demandée aux parents qui fréquentent ces lieux, dans les années 80, 47% étaient gratuits, contre 31% qui demandaient une participation libre et 20% un tarif imposé. Aujourd'hui, la gratuité, en fait, la gratuité existe dans 84% des lieux. Donc, il n'y a plus de participation symbolique qui soit demandée dans 84% des lieux qui sont créés aujourd'hui. En ce qui concerne la qualification des professionnels qui sont accueillants dans ces lieux, dans les années 80, il n'y avait que 23% des lieux qui n'avaient ni psychologue ni psychanalyste parmi les accueillants. Aujourd'hui, c'est dans 62% des lieux qu'il n'y a ni psychanalyste ni psychologue. Une tendance aussi importante, ce sont les activités programmées. Dans les années 80, il n'y avait que 7% des lieux qui avaient des activités programmées. Aujourd'hui, il y en a 24%. Et des activités programmées exceptionnellement, on passe de 27% à 42% aujourd'hui. En ce qui concerne les références théoriques et ou pratiques qui sont citées par les lieux, la psychanalyse est citée à 63%, dans 63% des cas, en fait, pour les structures créées dans les années 80. Aujourd'hui, pour les créations dans les années 2000, elle n'est plus citée qu'à 18%. Par contre, le travail social était cité dans les années 80 à 38% pour les structures créées dans les années 80. Par contre, aujourd'hui, on passe à 50%. L'accompagnement à la fonction parentale, elle est toujours citée dans des proportions à peu près identiques, 93% et 88%. Par contre, l'animation, qui était de 11% dans les années 80, on passe aujourd'hui à 34%. Bon, c'est un peu fastidieux ces chiffres, mais je crois qu'ils sont assez parlants. Donc 60% des lieux d'accueil enfants-parents ont ouvert dans les années 2000. Et le constat qui est fait aussi à travers cette étude, c'est que l'accompagnement à la parentalité prend de plus en plus d'importance. Et par ailleurs, donc une moindre influence du modèle de la maison verte. Si dans les années 90 et 2000, la psychanalyse connaît une réduction de son influence, il n'en reste pas moins que dans les lieux s'inspirant de la maison verte, que les lieux s'inspirant de la maison verte sont en constante augmentation et représenteraient aujourd'hui à peu près un quart des lieux, si l'on s'en tient à la référence à la psychanalyse, et à 17% si l'on y ajoute l'écoute psychanalytique. Dans les années 2000, l'influence des autres champs s'accroît, c'est-à-dire le travail social et l'animation, ainsi que la plus grande implantation en milieu rural. En fait, si Françoise Dolto voyait dans la Maison Verte un moyen de prévenir les troubles de la relation précoce que pouvaient vivre les jeunes enfants et leurs parents, les accueillants d'aujourd'hui parlent plutôt de la difficulté à être parent dans notre société et du constat d'isolement et de besoin de lien social entre des adultes. Force est donc de constater l'envol des autres types de lieux qui répondent également à des contraintes moins fortes, souvent associées à d'autres institutions, souvent en milieu rural, mais pas uniquement, parfois organisant des activités ou pas, avec tel ou tel profil d'accueillant. Sans référence théorique dominante, si ce n'est l'accompagnement à la fonction parentale et souvent l'animation. En fait, dans ce courant, l'implication des parents, les cafés des parents, les soirées à thème des maisons de parents, cet accompagnement à la fonction parentale, en fait, constitue un glissement de l'enfant vers le parent et elle s'avère très prégnante aujourd'hui et devient une référence commune à une grande majorité des lieux. Et ça se retrouve tout au long de l'enquête, que ce soit par rapport aux objectifs, aux actes dominants de travail de l'accueillant, aux principales attentes des accompagnants, les références au champ théorique ou pratique. Et de plus en plus aussi dans ces lieux, ce qu'on voit, c'est l'inscription du prénom de l'accompagnant à côté de l'inscription du prénom de l'enfant. Cette écoute des parents prend donc le pas dans certains lieux sur l'écoute de l'enfant, les effets sur l'enfant étant vus comme une conséquence des effets sur le parent, et non plus directement d'une parole qui lui est adressée. Une autre question posée par cette notion d'accompagnement et de soutien à la parentalité est son flou. À quoi les accueillants font-ils exactement référence ? Il faudrait une étude complémentaire pour en connaître les tenants et les aboutissants. Un autre point à souligner avant que je conclue, c'est la supervision qui existe dans 90% des lieux et pour 4%, elle est en cours d'élaboration. Elle est effectuée dans 30% des cas par un psychanalyste et par un psychologue dans 57% des cas et en moyenne au rythme de 7 fois par an. Alors, s'il ne s'agit que de tendances et non de catégories aux contours clairement définis, on peut quand même voir trois grandes tendances, qui est le travail social, qui est le champ de prédilection des lieux d'accueil enfants-parents de quartier, d'habitat social et en périphérie des villes. La psychanalyse, qui trouve un meilleur écho en quartier plutôt urbain et résidentiel. L'animation, quant à elle, se retrouve surtout au sein de lieux implantés en milieu rural. Pour conclure, en fait, si les années 70-90 ont été des années de grande richesse créative, elles ont fait bouger l'accueil des enfants, elles ont révolutionné les pratiques dans beaucoup de lieux où l'enfant est accueilli, la maternité, la PMI, les modes de garde, l'hôpital, la douleur. Et si aujourd'hui le regard et la façon d'aborder les enfants ont véritablement changé, c'est que plusieurs générations de professionnels et de parents ont été imprégnés des idées et de la pratique de Françoise Dolto, qui renouvelait les représentations, le regard et la façon d'être avec les enfants. Espérons que les années à venir ne seront pas des années de recul. Beaucoup se battent pour l'éviter, car les temps sont difficiles et les tentatives de déstabilisation et de régression se multiplient. Pour conclure, une citation de Françoise Dolto mentionnée par l'équipe de la Maison Verte lors du colloque en 1989. C'est une évolution des mœurs dans l'élevage et le respect de la liberté des petits et des jeunes au contact des adultes, de la famille et de la société qui modifiera l'avenir et le destin personnel des humains. C'est par l'éveil du cœur et l'esprit de l'enfant à la confiance en lui-même qu'il pourra atteindre une autonomie sécure, seul et en famille ou en société. Cette autonomie nécessite le respect de son rythme de développement, de ses infériorités naturelles, la délivrance du langage concernant toutes les questions qu'il pose, des paroles vraies dites par les adultes à l'occasion des événements quotidiens et qui vont le faire accéder à la distinction entre l'imaginaire et la réalité, ainsi qu'à la sécurité. C'est cette modification des mœurs éducatives qui peut être la révolution libératrice des enfants et la meilleure des prophylaxies des troubles actuels de l'inadaptation d'un si grand nombre d'entre eux. Le chemin à parcourir est encore long, mais beaucoup s'y emploient et la présence de vous tous dans cette salle laisse beaucoup d'espoir. Merci.
Merci à Elisabeth Vatel qui avait la tâche délicate de nous restituer une enquête chiffrée. C'était précieux, certes, pour notre information. Mais voilà, il va nous falloir tenir notre timing et c'est pas facile. Bon courage, Annie Grosser.
J'ai déjà éliminé deux pages. Alors. Je suis désolée. Des adultes parentaux sont fatalement nécessaires. Tout ce qui peut, dans le groupe social, répartir, ventiler l'angoisse de cette interdépendance est bénéfique pour l'enfant. Plus il est enfermé dans ce triangle, plus il risque d'étouffer et moins il a de chances d'advenir à lui-même. Mais Françoise Dolto ajoute dans la cause des enfants, il faut que cette cellule s'ouvre, mais sans brutalité. La Maison Verte, un lieu chaleureux, convivial, ouvert 5 heures par jour, 6 jours sur 7, 15 accueillants y font depuis 30 ans l'offre d'un espace de respiration pour les parents et pour l'enfant. C'est parce que la psychanalyse y garde toute sa vitalité en tant que praxis que la Maison Verte reste bruissante de vie et continue de passionner ceux qui y travaillent. Selon Françoise Dolto, le rôle de l'accueillant s'y borne modestement dans une présence légère à éveiller l'intuition maternelle et paternelle à l'intelligence symbolique de leur enfant. La Maison Verte, lieu de loisirs et de rencontres, oui. Lieu de socialisation, oui. Lieu d'aide à la parentalité, comme on dit aujourd'hui, incontestablement. L'enfant peut s'y reposer, d'être sans interruption perfusé par les ressentis des adultes dont il dépend. Rassuré de pouvoir les confier à leur père et aux trois accueillants du jour, il va, en buvant des yeux les justes un peu plus grands, y nourrir son désir d'allant-devenant. Il va aussi s'y ressourcer à son identité secrète, celle du poète. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont aussi les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Reste une grave énigme, dit Jean-Pierre Winter, que vous avez entendu ce matin. D'où vient que l'enfant soit accessible dès la naissance ou dès avant la naissance, la dimension éthique qu'il rencontre en prenant place dans le monde et qui lui en fait refuser toute torsion. Enseigné à mon tour par les enfants, je risque une hypothèse. Héritier de la pulsion invocante, les enfants viendraient au monde avec un savoir d'appartenance à l'espèce humaine et aux tabous qui la fondent. Ils intuitionneraient la loi et seraient preneurs des avancées de la culture Arbeit. La Maison Verte, un dispositif pensé au service de l'enfant. Il s'en sert pour y poser sa question du moment, celle qui l'occupe tout entier et à laquelle il consacre toute son énergie psychique. C'est le temps des pourquoi, des comment. Quel que soit son âge, il cherche à mettre en sens le monde qui est le sien. Enfant penseur, enfant philosophe, enfant thérapeute, enfant qui réveille notre enfance. Alors il arrive que ceux-là même qui l'interrogent ne puissent être que sourds à son impérieux questionnement. Marie-Hélène Malandrin, cofondatrice, dit « Parents et enfants ne peuvent avancer qu'ensemble. L'enfant n'a pas d'autre choix que de rester solidaire. Il attend. Mais gare à l'accueillant trop pressé ou trop content de faire l'intelligent, comme dirait Winnicott. À cela, l'enfant retire aussitôt sa confiance et interrompt le dialogue. Il attendra la prochaine occasion pour redire et signer son inappétence à tout ce qui heurte son besoin de rectitude. Il arrive aussi qu'à quelque chose de nous, de notre façon singulière d'être présent à lui, sans doute porté par ce désir d'analyse, il arrive que l'enfant nous fasse signe. À cet appel, il n'est nulle dérobade possible, sauf à nous trahir nous-mêmes. La Maison Verte, un brouhaha de vie, si différent d'un après-midi à l'autre, où pourtant il y a place pour des moments inouïs d'intimité. Je vous invite à un instantané de travail avec une petite fille accompagnée de son papa. Doutera-t-on encore de la nécessaire et du nécessaire et incontournable nouage présent dès l'origine à la création de la Maison Verte, le nouage éducation-psychanalyse dans le temps de construction des 0-4 ans. J'ai appelé cette vignette « Provocation, convocation, invocation ». J'aurais pu l'intituler « Juliette, une enfant top ». Je traduis pour les non-initiés « top » en vocabulaire DSM-4, trouble de l'opposition avec provocation. Cela justifie un signalement pour suspicion de délinquance future. Je vous invite à rencontrer Juliette, elle a 20 mois. Un après-midi d'hiver à la Maison Verte. Sans doute un air moite, saturé d'odeurs, de lait caillé, de couches qui débordent de la poubelle près de la table allongée. Une odeur qui fait reculer certains adultes sur le seuil. Oh là là, vous aérez de temps en temps ici. Une trentaine d'enfants, une bonne vingtaine d'adultes et trois accueillants, bien occupés. L'un près d'une maman, l'un passant la serpillière après une partie de rigolade ou de questionnement des limites autour des bacs à eau. Quant à moi, je suis au téléphone. Une demande de renseignement, un appel au secours, un appel. Le combiné à l'oreille, qu'ai-je donné à voir ou à entendre à Juliette ? debout devant le grand tableau, un feutre noir à la main. Je ne l'avais pas vue entrer. Tiens, elle me regarde. Nous nous saluons des yeux. Elle accroche mon regard et alors, à ma totale surprise, elle se tourne, trace un trait sur le mur et de nouveau plante ses yeux dans les miens. Interdite d'abord par cette volte-face, je me reprends et lui fais les gros yeux. De nouveau, volte-face, hors du tableau, nouveau trait noir sur le mur et regard bien planté. Je gronde de l'index. Mais c'est enregistré, Juliette m'appelle. Tout est allé très vite. Juliette, je la connais peu. Elle est venue quelquefois en fin d'après-midi avec sa nounou africaine. À la gravité de son visage tout lisse, je sais que cette provocation est une convocation. Quand je peux raccrocher, je m'avance. Mais qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ? Juliette tourne les yeux vers un des canapés du fond. Il y a là le monde déplié et deux pieds qui dépassent. Ah, tu es venue à la Maison Verte avec ton papa ? Visage grave et acquiescement du regard. Allons-y. Je toque au journal qui s'abaisse. Bonjour, je m'appelle Annie, je suis accueillante ici. Juliette avait très envie qu'on fasse connaissance. Ah, vous voyez ça à quoi, vous ? Eh bien, elle a griffonné sur le mur, alors... Écoutez, alors elle a 20 mois, il y a différence entre un mur et un tableau. D'un ton léger, mais qu'il n'entend pas, je lui dis. Oh, ben, j'avais pas remarqué que Juliette était un peu limitée intellectuellement. Il fronce les sourcils. Je dois donc lui préciser que je plaisante. Le rassurer, le mettre à l'aise, être une bonne maîtresse de maison. Mais je croise le regard de Juliette, plus que grave, inquiet. J'y déchiffre. Annie, tu t'égares, souviens-toi. Tu fais la mondaine. Moi, je t'ai appelée. Je me reprends, me ressaisis. Non, monsieur, votre fille fait très bien la différence. Mon ton est ferme désormais. Oh, elle n'a pas 2 ans, vous savez. Juliette trace plusieurs traits sur le journal posé sur les genoux de son père. Il sursaute, mais insiste. « Vous voyez bien, elle est petite à cet âge-là. » Juliette s'accroche à mon regard, qui acquiesce. Mon cœur s'accélère. Courageuses, toutes les deux, c'est parti. Un grand trait noir sur les pantalons du papa. Chez celui-ci, un sursaut de violence aussitôt réprimé. Et de nouveau, cette fois dans un murmure, « Vous savez, elle est encore petite. » Alors, levant les yeux, il surprend le regard de désespoir de sa fille qui murmure « Papa, pas non !» Alors il pleure. Bouleversé, émerveillé de toutes nos ressources mises en commun, je crois que je demande à Juliette si elle veut rester. Mais déjà, elle s'éloigne et nous laisse parler des coups de ceinture de ce grand-père qui dressait son fils à devenir quelqu'un de bien. Alors, avec ce fils devenu père, nous parlons du dressage, mais aussi de l'appétit d'éducation du petit homme.
Voilà, merci à Annie Grosser et merci à son humour et à sa fraîcheur pour nous tous. Je vais maintenant passer la parole à Irina qui vient de Russie. Je vais essayer de prononcer son mot sans trop le déformer. Irina Vorostova. Ça va, Irina ? Voilà.
Je vais bien vérifier. Bonjour à tous. Je voudrais dire tout d'abord que je suis très honorée de participer à cette grande manifestation dont la parfaite organisation fait mon admiration. Et moi, je remercie beaucoup Catherine Dolto et son équipe qui sont très, très efficaces. Et merci aussi pour la chaleur d'accueil. Moi, je le thème que j'ai annoncé, c'est la portée pédagogique de la pensée de Françoise Dolto, car moi, je suis pédagogue et c'est cette facette-là qui m'intéresse en premier lieu, puisque Françoise Dolto, nous ne l'oublions pas, elle s'est donnée comme vocation médecin d'éducation. Alors et ça, mais quand même, je vais parler de la rencontre qui est avant tout qui était qui est cette ressource qui fait des choses. Et cette rencontre qui est plutôt pour ainsi dire, des retombées de cette rencontre et des effets qu'elle a produits là où d'où je viens avec mes collègues. Et je viens de Russie, c'est une région qui se trouve entre la Volga et l'Oural et dont le chef-lieu est Ijevsk, une ville de boulot qu'on voyait sur la photo. Et cette rencontre elle a eu lieu il y a presque 20 ans quand moi, qui ai déjà fait tout un trajet d'enseignante, puis de mère de famille, de trois enfants, riche d'expérience, tout ça, riche de questionnements et de réponses qui n'étaient pas tout à fait typiques. Faisait que je ne trouvais jamais, je ne trouvais pas souvent de réponses je n'étais pas souvent en dialogue. D'un coup, je tombe sur le livre Tout est langage. C'est le thème de cette journée, Tout est langage. Et d'un coup, je comprends que voilà, j'ai une interlocutrice de choix qui a le courage de poser des questions essentielles et qui aussi a ce rapport à la vie très très sérieux et très respectueux. Depuis, je me suis mise à lire tout ce qui me tombait comme ça par hasard, puisque donc les séjours n'étaient pas fréquents, mais grâce à mes amis, moi je recevais pas mal de livres et je me suis mise à parler un peu par-ci par-là de ce que j'ai lu, ce que Françoise Dolto disait comme ça, et il s'est formé un groupe de pédagogues, d'instituteurs, de professeurs d'école et d'étudiants qui portent le nom maintenant dans le quotidien, le groupe d'Ijevsk. Voilà, je le présente sous ce nom-là. Il s'est formé autour des études, sur une base d'études autour de l'œuvre de Françoise Dolto, de la traduction de ses œuvres, de la création d'une cour verte, d'une maison verte qui porte le nom de la cour verte, des études sur la pédagogie de Françoise Dolto et aussi de l'élaboration de cursus universitaires, parce que le groupe d'Ijevsk, c'est un groupe d'universitaires de l'Université d'État d'Ijevsk. Voilà, en premier lieu, je voudrais présenter, et ça, je voudrais tout simplement parler de quelques projets du travail qui se fait autour des idées de Françoise Dolto, dont que je vais présenter un peu plus tard. Tout d'abord, c'est un projet pédagogique. Tout d'abord, c'est l'idée de parler vrai, de parler à l'enfant comme à un individu. Moi, j'ai animé il y a 10 ans un projet pédagogique à l'école primaire avec un groupe d'instituteurs et d'élèves universitaires pour créer un lieu où de parole où les enfants pouvaient s'exprimer et déterminer et dire, parler leurs aspirations, leurs besoins, et aussi de passer aux activités accompagnées de jeunes. Il y a une équipe pédagogique d'instituteurs qui... c'est, à l'école primaire, ce n'est pas par hasard, car c'est là où les instituteurs s'occupent beaucoup d'enfants qui sont c'est vraiment l'enfant est au centre de leurs préoccupations. Ils sont très ouverts à ce que la société s'ouvre plus à l'enfant. Il y a quatre... je présente quatre lignes forces de la pensée de Françoise Dolto à base de ce projet et d'autres qui sont en cours. Donc c'est respecter l'être humain dans l'enfant, toujours cette idée de respect qui m'est très chère, écouter et entendre l'enfant, parler à l'enfant comme à une personne et l'assister dans son autonomie. Et ici, de grands secours sont les élèves universitaires qui sont jeunes, qui viennent comme leurs frères aînés ou sœurs aînées. Et il y a tout un travail faire de la sorte que ces élèves universitaires retrouvent ce ton de respect et cette capacité d'écouter l'enfant. La grande ligne de ce projet, c'est écouter l'enfant. Pour actualiser son centre d'intérêt, il y a tout un programme. Entendre comme il voit arriver à ce qu'il désire faire, puis l'accompagner dans la réalisation de son projet, partager ses expériences et contribuer à créer et maintenir un milieu de langage et de convivialité. Et voilà quelques-uns de ces projets-là. Voilà, par exemple, ce projet quand la classe d'études a été transformée par les soins d'élèves en classe verte. C'était leur besoin, ils l'ont exprimé et ils ont franchi toutes les étapes de l'idée à la réalisation. Vous voyez que chacun est là. Son pot de fleurs. Ils ont appris tout concernant sa fleur, son caractère, ses mœurs, ses caprices aussi. C'était un travail qui a duré un an et demi. Un autre projet, quand l'enfant pose la question, se demande si, disons, il a vu le film Land Before Time, et si cette histoire des dinosaures est vraiment crédible, si vraiment c'est et il pose des questions, ce questionnement est le suivant: où vivaient, est-ce que les dinosaures vivaient pour le vrai, quand est-ce qu'ils vivaient, est-il possible qu'ils se soient rencontrés, toutes espèces confondues, au moment ou lieu donné. Et donc, il était accompagné pour fouiller dans des encyclopédies pour collecter les données, sur les sites internet. Il a interrogé beaucoup des adultes. Et puis, il a analysé, il a recueilli toutes ces données, il les a systématisées, fait conclusion, et puis voilà, vous voyez qu'il présente son exposé. Il a préparé lui-même son exposé, il présente. C'est aussi un type de projet de travail qu'on effectue. Aussi les questions qui se posent et qui sont discutées avec l'enfant, communiquer c'est quoi, qui communique à qui, et comment faire pour s'entendre et créer des choses ensemble et respecter l'autre, qu'est-ce que c'est? Ça passe comme un fond de discussion. Et voilà, il y a notre grand projet, c'est la Cour verte à Ijevsk. C'est une maison verte qui accueille le samedi de 10h à 15h, depuis 5 ans déjà. Et le nombre d'enfants a augmenté cette dernière année jusqu'à 40. Et il y a ces accueillantes qui sont à l'écoute de l'enfant et des parents. Et l'animatrice de ce projet, Tatiana Shekalova, qui est ici présente, elle organise des stages d'élèves universitaires, elle anime des tables rondes, des accueillants, et elle veille aussi au bon et du fonctionnement de la Cour verte. Elle a un esprit coopératif très prononcé, son travail en contact avec des services responsables de la petite enfance des Gevsk. Et il y a, voilà, vous voyez, il y a des accueillantes à la Cour verte, et aussi nos anges gardiens, je dirais, qui répondent à l'appel et viennent à Ijevsk pour parler, pour discuter, pour des choses. C'est Catherine Dolto, Caroline Eliachev et aussi Marie Lucchini, qui est coordinatrice à Moscou, qui participe aussi au congrès. Et enfin, ce qu'on a fait dès le début, on a organisé des séminaires, Françoise Dolto, à l'université d'Oudmoursie, c'est depuis 2000. Et voilà les thèmes qui sont affichés, c'est les conceptions de l'enfance, la cause de l'enfant, conception et pratique des maisons vertes, et en particulier le grand thème qui a surgi pendant la matinée, c'est le père, sa place dans le devenir de l'enfant, les paroles du père. On a eu plusieurs séminaires là-dessus. Et enfin, on a jugé bon de faire des traductions en russe et publier l'ensemble d'œuvres de Françoise Dolto en russe. Il y a une maison d'édition qui s'en occupe, et le directeur scientifique, il est aussi présent ici, c'est Sergei Sirotkin. Et il y a des traductrices, dont moi et aussi mes collègues. Sont sorties déjà en russe l'image inconsciente du corps et psychanalyse et pédiatrie. Vont sortir l'année prochaine l'autoportrait d'une psychanalyste, article et conférence des premières années depuis 38 jusqu'à 51, et lorsque l'enfant paraît, en 3 volumes. Ce n'est uniquement dans le cas de ce n'est seulement Françoise Dolto qui est au centre de préoccupation, puisque sinon ce serait ce qu'elle refusait nettement de faire l'école, puisque ça ces éditions, le programme d'édition prévoit aussi tout un contexte de classique de la psychanalyse, avec Mélanie Klein, avec Sabine Spielrein, classique de psychanalyse, psychologie clinique, psychologie critique, etc. Et aussi, il y a une revue annuelle qui paraît toutes les années. Et voilà, le dernier numéro, il a consacré une place très importante au centenaire de Françoise Dolto. Je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas trop dépasser.
Merci beaucoup à Irina Vorotsova et merci de nous donner cette information extraordinaire. Certains l'apprennent sans doute aujourd'hui, de la traduction d'un certain nombre d'œuvres de Françoise Dolto en russe. Ça, c'est quand même un événement. Félicitations à toute votre équipe et à votre travail. Voilà, je vais maintenant donner la parole à nos amis qui viennent, eux, d'Arménie. Alors, c'est pas très facile pour eux parce que, d'une part, Karine Barikian, qui est la directrice du Jardin Arc-en-Ciel à Erevan, ne parle pas le français. Rafi Setian, son mari, qui est américain, parle très bien l'anglais. Et il va non pas pouvoir, étant donné notre timing très difficile, traduire son épouse, mais lire plutôt l'intervention de Karine directement en français. Donc il nous a mâché l'œuvre et je l'en félicite. Merci.
Bonsoir. Nous sommes très heureux de nous trouver aujourd'hui parmi vous, grâce à Willy Barral et Catherine Dolto, pour fêter avec vous le centenaire de la naissance de Françoise Dolto, que nous avons connue grâce à l'enseignement de Willy Barral. Cela fait déjà 13 ans que notre maison verte, le Jardin Arc-en-Ciel, fonctionne dans la capitale d'Arménie, Erevan. Notre association, Korçak Dolto, s'est créée en 1995. Nous sommes extrêmement reconnaissants à nos premiers bienfaiteurs français, messieurs Éric Legros et Philippe Boucher, ainsi que le docteur Willy Barral. Ils sont arrivés dans notre pays peu après le grand tremblement de terre qui nous a secoués à la fin de 1988, faisant 30 000 morts. Et à cette époque-là, au-delà de l'aide matérielle qu'ils nous ont apportée, ils nous ont enseigné la fonction symbolique de la parole vraie auquel nous étions habitués dans un régime soviétique. Nos cœurs restent toujours pleins de gratitude pour la bonne nouvelle de la psychanalyse qu'ils ont introduit en Arménie dans le cadre d'une mission humanitaire. À l'aide des théories psychanalytiques développées par Françoise Dolto, Jacques Lacan et leurs disciples, nous avons essayé, au fil des années, de pénétrer dans les profondeurs de l'âme enfantine et de comprendre les mécanismes de l'autisme parvenant jusqu'aux racines des pathologies mentales de l'enfant et qui sont cachés parfois dans son existence prénatale afin de délivrer l'enfant de ses souffrances. Nous sommes tout à fait certains que le travail fécond et dévoué de nos trois amis psychanalystes français a beaucoup contribué à ouvrir dans notre pays un éclairage tout à fait nouveau pour la santé de nos enfants arméniens. D'ailleurs, j'aimerais maintenant vous faire entendre une histoire, pas comme les autres, qui nous est arrivée dans notre jardin arc-en-ciel d'Erevan, lors du passage du Willy Barral parmi nous. Nous avons été les témoins de cette histoire et nous voulons vous la faire partager pour que vous puissiez entendre vous-même l'importance d'une parole vraie dans ce merveilleux lieu d'accueil qu'est une maison verte Françoise Dolto. Nous avons choisi de vous la raconter aujourd'hui pour vous parler d'une forme de prévention des problèmes psychosomatiques de la petite enfance. La mère d'Armen arrive seule avec son fils. Il a 4 ans. Elle est toute de noir vêtue, l'air fatigué, extrêmement pâle, affichant toute sa dépression. Armen se précipite vers l'endroit où il y a le petit bassin d'eau avec des jouets en plastique, canards, petits bateaux, etc. Sur la margelle du petit muret en carrelage qui retient l'eau, des éponges de couleurs diverses sont collées pour éviter que les petits enfants ne se cognent la tête en glissant sur le carrelage du sol et risquent de s'y faire très mal. Nous sommes assis à 2 pas de ce petit bassin, la mère, mon interprète et moi-même. Armen est debout et nous tourne le dos, mais il peut tout entendre de notre conversation. La mère est venue me voir pour que je lui donne une bonne adresse d'hôpital à Paris, car son fils doit être opéré bientôt pour une hydrocéphalie. Sa tête est en effet 2 fois plus grosse que celle des autres enfants. Elle s'est mise à gonfler très progressivement il y a quelques mois déjà. Je demande à la mère de m'expliquer pourquoi elle est habillée tout en noir et depuis combien de temps. Elle me répond qu'elle a perdu son mari il y a 2 ans déjà, mort au Tadjikistan d'un infarctus. Ils vivaient tous ensemble là-bas en famille, mais ils sont revenus en Arménie en avion pour enterrer le père de l'enfant sur la terre de ses ancêtres. Son fils Armen ne sait pas que son père est mort, me dit la mère, qui parle presque à voix basse. Il avait 2 ans alors et il était trop petit pour comprendre. Sinon, ajoute-t-elle, si on lui avait dit, il aurait trop souffert. Je demande à la mère comment elle peut être sûre que son fils n'en sait rien. Elle m'assure qu'elle ne lui en a jamais parlé, qu'elle n'en a jamais rien dit non plus depuis et qu'elle n'a jamais pleuré devant lui. D'ailleurs, lui-même ne parle jamais de son papa. Puis, elle se reprend et ajoute « Ah, si, pardonnez-moi, un jour, il m'a demandé où était son papa. » Et je lui ai dit qu'il était dans l'avion en voyage. Je regarde Armen pendant que la mère me parle et je le vois en train d'arracher avec rage les éponges de couleur qui sont collées sur la margelle du petit bassin d'eau. Je le fais remarquer à la mère qui dit alors à son fils, « Armen, mais qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ces éponges. Arrête de les décoller comme ça. » Je dis à la mère de laisser son fils s'exprimer comme il entend. Ce lieu a été conçu pour ça. Regardez plutôt l'intelligence de votre fils. Nous sommes en train de parler de son papa qui est mort. Vous venez de me dire qu'Armen ne parle jamais de son papa puisque vous ne lui en parlez jamais et qu'il ne pleure jamais. Vous non plus d'ailleurs. Mais une fois, vous lui avez dit que son papa était dans l'avion en voyage. Pendant que vous me parliez, je voyais bien qu'Armen suivait avec beaucoup d'attention notre conversation, puisqu'il décollait les éponges du bassin d'eau en jouant à faire voler une éponge comme un avion après qu'il a décollé du sol. La mère me répond, « Ah oui, figurez-vous que son jeu préféré le soir à la maison, c'est de me dessiner souvent un avion avec ses crayons de couleur et de m'offrir son dessin avant de se coucher en me disant ceci. C'est pour toi, maman, pour que tu dormes bien. » Ou bien, parfois, il fabrique l'avion avec le papier et essaye de le faire voler pour papa. J'étais bien étonné de cela, mais je ne disais rien pour ne pas le voir pleurer. Et moi, j'allais pleurer en cachette dans ma chambre, mais je n'ai jamais pleuré devant mon enfant. Oui, dis-je à cette mère courage, et cependant si dépressive. C'est comme si votre fils voulait vous consoler. D'habitude, c'est la maman qui raconte une histoire le soir pour endormir son enfant. Chez vous, c'est votre fils Armen qui vous raconte une histoire pour que vous puissiez bien dormir. Votre enfant vous aime beaucoup et il prend soin de vous. Il n'a pas envie que vous disparaissiez comme son père brutalement. La mère continue. Ce que vous me dites là me fait penser à un cauchemar que je fais très souvent la nuit depuis longtemps. Je me vois avec mon fils au bord de la mer morte et je le perds de vue. Tout à coup, il n'est plus là. C'est comme s'il était mort parce que je l'aurais perdu dans la mer morte. Je ne comprends pas pourquoi je fais ce rêve si souvent. Et je me réveille en larmes. Je reprends la parole et aussi... Je m'excuse. Je reprends la parole et dis à la mère ceci. Dans la langue française, l'expression « mère morte » qui était à une époque la frontière de votre grand pays, l'Arménie, est aussi une mère morte. La maman de l'enfant qui aurait peur de mourir et de perdre son enfant, qui à son tour pourrait mourir d'avoir perdu sa mère. Oh, ce que vous me dites là est effrayant et cela m'oblige à vous dire la vérité. La mère baisse la voix et me confie ceci. Armin n'est pas mon vrai fils, mais il ne le sait pas. Je l'ai adopté à sa naissance quand sa mère est morte en couche à la maternité. J'étais une amie de la famille de sa mère et je l'ai tout de suite adopté parce que je n'avais pas d'enfant. Mais Armin ne sait pas que je ne l'ai pas porté dans mon ventre. Son papa et moi, nous ne lui en avons jamais parlé. Je regarde Armin qui nous tourne toujours le dos. Il s'est brusquement arrêté de jouer et je vois son bras comme figé en l'air avec son éponge avion. Comprenant que l'immobilité de cet enfant de 4 ans signifie qu'il est saisi par cette grande nouvelle qui le cloue sur place, je viens à son aide en m'adressant à lui. Armin, lui dis-je, viens nous voir. Tu as tout entendu de ce que ta maman vient de me dire. C'est pour toi qu'elle m'a parlé. C'est pour que tu saches toute la vérité aujourd'hui, cette vérité qu'elle n'arrivait pas à te dire de peur de te faire souffrir. Il y a longtemps sans doute que tu savais cela, mais tu ne pouvais rien dire à ta maman pour ne pas l'affaiblir. La mère se met à respirer difficilement, de manière saccadée, semblant retenir un sanglot. Toi, Armin, tu es un enfant formidable qui a aimé ton papa et qui sait bien qu'il est mort. Mais tu ne peux pas le dire à ta maman autrement qu'en lui dessinant des avions pour qu'elle puisse mieux dormir. Tu ne veux pas qu'elle ait mal au cœur à cause de toi. Et puis, tu as un si grand cœur, toi, puisque tu as deux petites mamans que tu aimes tous les jours dans ton cœur. Ta maman de naissance qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois pour que tu arrives bien vivant au monde. Et puis, comme elle est morte, c'est la deuxième petite maman qui t'a recueilli dans ses bras et dans son cœur à ta naissance pour que tu ne risques pas de mourir à ton tour. La mère pleure et s'effondre bruyamment en larmes. Armin se précipite en courant vers la directrice du lieu pour aller chercher un mouchoir pour sa maman. Il revient vers elle et monte sur ses genoux pour lui essuyer les yeux. La mère prend alors son fils dans ses bras et les voilà qui pleurent ensemble abondamment dans les bras l'un de l'autre pour la première fois sans doute bien longtemps. L'émotion est à son comble et toutes les personnes qui sont là ce jour, même les petits-enfants qui sentent qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, se rapproche de nous et nous entoure comme un cœur antique qui ferait écho à toute cette vie émotionnelle intense. Tout le monde a larmes à l'œil. Je laisse s'écouler cet instant d'émotion et je termine ce partage en m'adressant à nouveau à Armin. C'est formidable, Armin, ce qui t'arrive. Tu peux enfin pleurer de tout ton cœur pour ton papa qui est mort quand tu avais 2 ans, pour ta petite maman morte lorsqu'elle a réussi à te mettre au monde et qui est très contente aujourd'hui pour toi que tu sois vivant. Et puis aussi, tu peux enfin pleurer d'amour pour ta seconde petite maman qui t'a sauvé la vie en te cueillant chez elle et dans son cœur à ta naissance. Tu es l'enfant le plus aimé du monde et toi, tu le leur rends bien. Tu les aimes tous dans ton cœur. Tu n'as plus à te sentir coupable d'avoir perdu ta maman de naissance. Tu n'y es pour rien. Ni ton papa d'adoption de cœur, tu n'y es pour rien non plus. Et dans la douleur de ta maman d'adoption de cœur, là encore, tu n'y es pour rien. Tout le monde peut pleurer de joie. Les larmes, ça fait tellement de bien. C'est la vie, comme le rire. Rire et pleurer, c'est ça la vie. Et tout le monde y a droit, et toi aussi. voilà, je vous ai raconté une histoire dont nous avons été nous-mêmes témoins, qui illustre parfaitement l'importance d'une parole vraie dans ce merveilleux lieu, ce lieu d'accueil qui est une maison verte, Françoise Dolto. Merci.
Alors il me reste le mot de la fin pour conclure cette table ronde. J'aimerais pour ma part revenir sur cette affirmation de Françoise Dolto. Le corps de l'enfant est le langage de l'histoire de ses parents. Et Karine Barikian a choisi de l'illustrer par cette vignette clinique. En effet, c'est bien parce que Françoise Dolto déplorait de voir les parents conduire leurs enfants à l'hôpital, ce qui les coupait de ses parents, aggravant leurs troubles psychosomatiques par où leur corps parlait, qu'elle eut l'idée de créer une maison verte dont la triple mission serait d'offrir aux petits-enfants un sevrage non violent, une prévention de troubles psychosomatiques de la petite enfance et une socialisation précoce avant l'entrée en crèche et à l'école maternelle. Vous l'avez entendu, je me range délibérément du côté de ceux qui ont fait le choix de considérer avec Françoise Dolto que l'image inconsciente du corps permet de comprendre la genèse du sens symbolique rattaché aux maladies en tant que mal à dire. Notre corps parle et les petits-enfants nous le montrent tous les jours. Le langage du corps et de la maladie physique est le langage le plus acceptable que nous ayons, nous les humains, pour parler de notre souffrance. La maladie est pour le patient le moyen de survivre, disait Georges Grodek. La maladie est l'effort que fait la nature pour guérir l'homme, disait Carl Gustav Jung. La maladie exprime le mal-être symbolique de l'enfant en impasse de communication langagière avec ses parents tutélaires, disait Françoise Dolto. L'être humain est donc une création symbolique, et ses symptômes constituent un langage surgi des profondeurs de l'être, des signaux d'alarme manifestés à travers le corps, et pour qui se donne la peine de décrypter ce langage symbolique, les messages prennent un nouvel éclairage. Mais souvenons-nous cependant que la psychanalyse permet donc d'interpréter de manière subjective pourquoi une maladie se manifeste, elle n'est jamais sûre, par contre, de pouvoir expliquer de façon objective comment le processus pathologique se déroule. Pas plus qu'elle ne permet d'identifier avec certitude les causes biologiques impliquées dans ce processus. Ce n'est d'ailleurs pas son propos. La psychanalyse n'a jamais tenté de se substituer à la médecine biologique et scientifique, même si, parfois, le fait d'apporter une interprétation à certains mots se révèle suffisant pour le faire disparaître. Toutefois, retenons bien ceci, le corps finit toujours par dire la vérité. Peu importe les mots que nous utilisons pour la traduire dans nos vérités, que les messages du corps soient symboliques ou pas, ils expriment une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. C'est un langage qu'il nous faut écouter. Je me contenterai donc de vous inviter à éviter les interprétations sauvages et beaucoup de modestie lorsqu'il s'agit de comprendre comment notre corps parle, notre corps désire, notre corps pense. la vie doit garder sa part d'énigme. Je vous remercie de votre attention.